Évangile de Matthieu, chapitre 24. Il y a quelques jours, pour ceux qui reçoivent les messages qu'on envoie le matin, il y avait une pensée qui était en fait une chose que j'avais vécue en personne. Cet homme-là qui était médium, réputé dans son pays d'origine. J'ai eu l'occasion d'y aller aussi et j'ai été témoin de voir les gens qui venaient de très loin pour consulter cet homme-là. Et quand je dis qu'ils venaient de très loin, ce n'est pas les déplacements que nous avons ici avec des voitures, avec des TGV. Donc le village était inaccessible en voiture. Donc il fallait soit être dans des charrettes, soit être sur un âne ou bien sur un cheval. Pour certains, il fallait traverser le fleuve, donc il fallait prendre les pirogues. Et les gens venaient de très loin pour consulter cet homme-là. Et toute la famille est réputée dans la magie dans cette partie du pays. Toute la famille était consacrée à la magie. Et certains même membres de la famille allaient chercher la magie au Brésil. Donc ils allaient dans chaque pays là où la magie était élevée pour ramener des puissances. Et lorsque cet homme donc était venu en France, j'ai eu à aller le chercher. Et nous avons passé quelques jours à la maison là où je vivais à l'époque. Et après qu'il ait eu à finir ses travaux, il fallait donc le ramener chez lui dans la région parisienne. Voilà. En fait, il vient sur Paris, il vient en France régulièrement et il passe aussi quelques temps en Afrique. Et donc, quand on le ramenait, c'était moi qui conduisais. Et il pleuvait tellement ce jour-là. Et à un moment donné, devant nous, il y a eu un carambolage. Donc, il y a eu plusieurs voitures qui se sont rentrées dedans. Et moi, j'arrivais, n'ayant pas respecté la distance, bien que j'essaie de freiner, le véhicule ne freinait pas, tellement la route était mouillée, et on est parti, on a tapé dans la voiture qui était devant nous. Et lui, j'étais avec mon frère qui était assis à côté de moi, et ce féticheur-là, ce sorcier, était derrière. Et au moment où il y a l'impact, je l'entends crier. Ah, mais, et un détail que j'ajoute, c'est que lorsqu'il crie, il crie mon nom à moi. Il crie mon nom, donc c'est comme s'il m'appelle au secours, quoi. Donc moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Sur le coup, je n'ai pas réagi. Mais c'est maintenant, avec la connaissance du Seigneur, que je me dis, mais attends, moi, je vais le voir parce que je compte sur lui. Et lui, dans ce moment-là, il comptait encore sur moi. Mais je dis, mais finalement, qui allait sauver qui? Je me suis reposé sur cet homme en pensant qu'il allait arranger ma vie. Mais voilà qu'on était près de la mort et c'est lui qui crie après moi. La Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. À ce moment-là, on allait tous mourir. Qui pouvait sauver qui? Moi, je pouvais compter sur lui en se disant, bon, comme c'est un grand, aucun mal ne va nous arriver. Lui devait se dire, comme c'est un bon pilote, aucun mal ne va nous arriver. Mais finalement, ni l'un ni l'autre n'a pu faire quoi que ce soit. L'accident a eu lieu. Dieu merci, il n'y a rien eu de grave, mais l'accident a eu lieu. Et cet homme-là, qui était soi-disant puissant, a crié mon nom dans la voiture. C'est drôle, hein? Mais sur le moment, quand on est dans l'ignorance, on ne s'en rend pas compte. Et c'est la raison pour laquelle des gens comme lui viennent en France, là où les gens connaissent beaucoup de dépression. Cet homme, c'est un Africain, mais les gens qui vont le consulter, ce n'est pas que les Africains. Parce que si c'était pour consulter les Africains, il resterait resté en Afrique. Il y a beaucoup de Français qui vont le voir. Parce que le monde souffre et ils ont le sentiment qu'avec de telles personnes, ils vont s'en sortir ou bien trouver une issue à leurs problèmes. Et pendant qu'il nous endort, qu'il nous fait croire qu'il va résoudre nos problèmes, avec l'argent qu'il amasse ici, il construit des villas là-bas en Afrique. Et voilà, c'est comme ça qu'ils vivent pendant que nous, on se repose sur ce genre de personnes-là. Dans l'exemple que j'ai donné, j'ai été à l'extrême. Parce que c'est vrai qu'on va se dire, oui, c'était un médium, c'était un sorcier. Mais lorsque le Seigneur nous enseigne, il n'est pas question forcément de tous ceux qui ont des puissances, même si c'est vrai, il en parle beaucoup. Mais le Seigneur dit clairement, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns et les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous allons verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les vautours. Voilà, j'ai voulu lire pratiquement le chapitre pour qu'on reste dans le contexte. Les disciples s'interrogent ou interrogent le Seigneur sur la réalité de la fin des temps et particulièrement les signes qui préviendront de la fin du monde. Et le Seigneur leur dit premièrement, attention que personne ne vous séduise. Donc il veut dire par là que la séduction est un grand signe de la fin des temps. Il va dire par la suite, il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre, tout ce que nous pouvons voir et observer aujourd'hui qui ne fait que s'amplifier. Toutes ces choses ont été annoncées et sont des signes de la fin des temps. Et il dit, parce que l'amour, parce que comment dire, le mal ne va faire que s'accroître, l'amour du plus grand nombre va aussi se refroidir. Donc l'amour, certains vont perdre l'amour de la vérité à cause du mal qui ne va faire que s'accroître, qui va emmener les gens quelque part à se décourager et à douter même de la présence du Seigneur. Alors parce que le mal ne va faire que s'accroître, parce que la situation va être catastrophique, mais les gens aussi auront la volonté de s'en sortir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voyants, beaucoup de médiums? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus des médecines qui ne le sont pas en réalité, qui sont plus de la magie, qui se manifestent encore davantage et davantage des choses qui n'existaient pas autrefois, qui aujourd'hui devient comme une mode? Aujourd'hui, on commence à promouvoir le yoga, beaucoup de choses liées à la méditation, à la concentration, soi-disant pour emmener l'homme à être dans le bien-être. Pourquoi toutes ces choses ne font que se multiplier? Ce n'est pas simplement qu'il y a beaucoup plus de sorciers qu'autrefois. Le diable a toujours existé. Donc forcément, il a toujours eu des disciples. Mais c'est tout simplement que puisque le mal ne fait que s'accroître et les gens sont de plus en plus dans une forme de dépression, eh bien, ça nécessite de plus en plus de besoins pour guérir les humains. Mais l'homme en lui-même n'ayant pas cette capacité, alors on va créer toutes sortes de choses mystiques pour proposer aux humains une solution à leurs problèmes. Il y a beaucoup de voyants parce que les gens ne sont pas heureux. Les gens ont le souci de savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Mais celui qui est milliardaire, qui a tout, qui garantit son avenir avec son argent, n'a pas le même souci que celui qui est dans la maladie, qui est dans la galère, qui est dans l'épreuve. Donc plus la souffrance se manifeste, plus l'homme a soif de trouver une solution. Alors c'est à ce moment-là, que le diable propose davantage de solutions entre guillemets, spirituelles, des solutions magiques pour emmener l'homme à connaître le bonheur qu'il recherche. Et la Bible nous dit que c'est à ce moment-là qu'il va s'élever aussi beaucoup de faux prophètes qui vont faire toutes sortes de prodiges et de miracles, s'il est possible même pour séduire les chrétiens. Mais voilà qu'ils vont s'élever. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que l'homme est dans un besoin. L'homme est dans une difficulté. Les médicaments ne suffisent plus. La sécurité sociale ne suffit plus. La sécurité du pays, les militaires, les policiers, ça ne suffit plus. Il faut maintenant d'autres moyens pour pouvoir pallier à tout ce que le monde ne peut pas donner. Et le diable donne maintenant des puissances à certains humains pour garantir, entre guillemets, un semblant de bonheur à tous ceux qui sont dans une forme de détresse. Et c'est à ce moment-là que les gens maintenant commencent à se confier, à s'abandonner entre les mains de ceux qui ont soi-disant le pouvoir de guérir, le pouvoir de donner la paix. Ils deviennent petit à petit esclaves. Et étant esclaves de tous ces gens-là, on ne peut plus avoir le regard sur le Seigneur. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit, on ne peut pas servir deux maîtres. On va haïr un, on finira par haïr un. Donc le Seigneur sait clairement que lorsque l'homme est confronté à un choix, dans le choix qu'il a, il finira toujours par négliger autre chose. Lorsqu'on est engagé dans un combat, on voit aujourd'hui, j'avais un médecin qui était dans cette rue lorsque j'habitais dans le coin, le médecin de famille entre guillemets, souvent quand j'allais, il n'était jamais là. Toujours un petit mot, il est en voyage. Tu reviens deux semaines après, il est là. Une semaine après, il est encore reparti. Parce que c'est quelqu'un qui s'était consacré à la vie d'aller aider les pauvres dans des associations humanitaires, ainsi de suite. Donc forcément, en étant partagé entre son emploi, c'est-à-dire docteur, ici, pour lequel il a fait des études, mais voilà qu'il se retrouve à faire des missions, et puis c'est un catholique, des missions catholiques, des choses comme ça, parce qu'il a aussi ça à cœur. Donc forcément, à un moment donné, lorsqu'il a été confronté à un choix, il a été obligé de négliger une partie. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Lorsque nous ne sommes pas entièrement à lui, mais que nous sommes partagés dans des choix, à un moment donné, nous risquons de faire un choix qui va nous éloigner du Seigneur. Et c'est de cette manière-là que, à force de regarder aux humains, à force de regarder aux moyens que les humains nous proposent, petit à petit, on s'éloigne de Dieu. Or, le Seigneur nous a dit que le mal ne va faire que s'accroître. Mais faites attention, parce que lorsque le mal sera grand, là aussi, il y aura de plus en plus de faux serviteurs qui viendront et vous proposeront des choses extraordinaires pour résoudre votre problème. Parce que le Seigneur nous connaît, connaît le cœur de l'homme, il nous a prévenus à l'avance. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ont beaucoup plus la foi dans leur pasteur que foi en Dieu lui-même. Pourquoi ? Parce que à force de prendre l'habitude de s'appuyer sur le pasteur, de compter sur le pasteur, il y a moins le réflexe de prier d'abord. Ce n'est pas mauvais d'aller voir le pasteur pour prier. Ce n'est pas mauvais de se confier, c'est-à-dire de partager lorsqu'on a un souci. Mais ce qui est le plus important, c'est de s'attendre à Dieu. Après, quel que soit le moyen que Dieu utilisera pour résoudre notre problème, il est souverain. Mais si nous, dans notre intention, nous nous disons que mon problème sera réglé par lui, mon problème sera réglé par le médecin, par un tel, petit à petit, nous sommes en train de nous éloigner de Dieu. Et notre confiance n'est plus fondée sur le Seigneur, mais fondée sur l'homme. Nous lisons Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, à partir du verset 1er. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leur enfant, ainsi pensent-ils à leur autel et à leur idole d'Astarté près des arbres verts. Sur les collines élevées, je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tous tes hauts lieux à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitant. Amen. Le Seigneur dit, maudit soit celui, l'homme qui se confie dans l'homme. Et le Seigneur dit ça à la suite du péché de Judas qu'il est en train de décrire. Le péché dont il est question là, il dit, ils pensent à leurs idoles comme ils pensent à leurs enfants. L'image est très forte. S'il y a bien une chose que les humains font sans forcer, c'est aimer leurs enfants. Même lorsqu'ils arrivent à haïr d'autres personnes, même lorsqu'ils arrivent à faire du mal à d'autres personnes, l'affection naturelle pour l'enfant est quelque chose d'automatique et que nous pouvons constater. Et le Seigneur dit, la manière dont ils aiment leurs enfants, c'est de cette manière-là qu'ils aiment aussi leurs idoles. Pour la plupart d'entre nous qui sommes parents, on peut comprendre, lorsque l'enfant est malade, qu'est-ce qu'on ressent? Lorsque l'enfant vient au monde et qu'il faut l'élever et qu'il faut veiller sur lui la nuit, on voit tout l'engagement que ça demande. Et forcément, cet engagement est lié aussi à l'amour que nous avons pour l'enfant. Et Dieu dit, voilà que les hommes d'Israël aiment leurs idoles comme ils aiment leurs enfants. Et Dieu dit que c'est à cause de ce péché-là qu'il est en colère, qu'ils ont allumé le feu de sa colère. Donc nous voyons, bien-aimés, que lorsque le Seigneur dit « Maudit l'homme qui se confie dans l'homme », il ne disait pas directement que Israël mettait sa confiance dans l'homme, puisque là, ce qu'il condamnait, c'était l'idolâtrie. Donc comprenons que lorsque Dieu dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme », ce n'est pas directement qu'on se confie dans l'humain, mais c'est-à-dire qu'on se confie dans tout ce qui émane de l'humain. Puisque là, l'astarté, l'idole, est fabriquée par des humains. Et l'invention de l'humain est liée à la conscience des humains de vouloir se faire un Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose qui sort de Dieu, mais qui sort de l'humain, qu'il a fabriqué lui-même, qui est monté lui-même, et il dit que c'est ça son Dieu. Dans tout ce qui sort de l'humain et qui va prendre une place importante, le Seigneur considère que c'est comme si on se confiait dans l'homme. Parce que toutes ces choses-là viennent de l'homme. Je donne un exemple. Aujourd'hui, lorsque certains sont esclaves de l'argent. Mais être esclave de l'argent, c'est être esclave du système humain. Parce que le système monétaire, ça ne vient pas de Dieu. C'est quelque chose qui a été créé par les humains. Donc mettre notre confiance dans ce système-là, pour le Seigneur, c'est comme si nous mettions notre confiance dans l'homme et dans tout ce qui est fait de main d'homme. Dans ce passage-là, Dieu ne condamne pas comme si Israël était parti chercher du secours auprès des humains. Il dit non. Il dit qu'ils se sont confiés dans Astarté, dans les idoles. Et le Seigneur dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Autrement dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et dans tous et de tout ce qui est fait de la main d'homme. Et le Seigneur va très loin, il va en toi être explicite. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et se détourne de lui, qui prend la chair pour appui. Donc se confier, ce n'est pas comme certains l'évoquaient quelquefois, le fait de partager un problème que tu as avec une sœur, avec un frère, avec un responsable spirituel, ce n'est pas ça se confier. Là, se confier, c'est dans le sens partager pour avoir un soutien spirituel, ce que l'on veut. Mais le Seigneur dit qu'il prend la chair pour appui. Lorsque tu t'appuies, tu vois l'image d'une canne qui te sert à t'appuyer, c'est-à-dire que ton poids repose sur cette canne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on enlève la canne, tu tombes par terre. C'est ça s'appuyer. Donc le Seigneur considère que quand tu t'appuies sur un homme, c'est comme si on enlève cet homme-là, toi aussi tu es parti, tu tombes aussi. Donc ça veut dire que tout ton poids, toute ton espérance reposait sur cet homme-là. Il suffit qu'on enlève cette béquille-là et tu te retrouves par terre. C'est ça que Dieu condamne. Ce n'est pas le fait de se confier, de discuter avec la personne, de confier un problème que l'on a pour demander du soutien dans la prière. Dieu ne condamne pas ça. Donc soyons libres d'aller nous voir les uns les autres, de parler, de partager, mais pas en se disant que c'est lui qui a la solution à mon problème. Que c'est lui qui résoudra mon problème. Ah, vraiment, s'il n'est pas là, ma vie est foutue. C'est ça que Dieu ne veut pas. Et c'est ça que le Seigneur reprochait à Israël. Il dit, vous aimez les idoles comme vous aimez vos enfants. Et il y a beaucoup d'idoles dans le monde. J'ai donné l'exemple de l'argent. Et c'est un mal qui est vraiment récurrent et qui est, je dirais, de plus en plus visible. Les gens ne s'en cachent même plus, même dans l'église. Lorsque l'on voit certaines prédications, certaines spécialités maintenant, de prêcher que le chrétien doit être riche, le chrétien doit être la tête et non la queue. Et tout ça, ça emmène les gens à avoir la seule pensée de s'enrichir. La pensée du ciel, la pensée de l'éternité n'est plus parce que le souci qu'ils ont, c'est de prouver qu'ils sont des enfants de Dieu par la richesse. Mais si c'était ça qui justifiait que nous sommes enfants de Dieu, comme je dis souvent, ça voudrait dire que les apôtres avant nous, ils ont tous échoué. Il n'y en a aucun qui est mort milliardaire. Donc, ils ont tous échoué. Mais ceux-là qu'ils ont soi-disant échoué, la Bible nous dit que c'est leurs noms qui sont inscrits sur les colonnes de la Nouvelle Jérusalem. Ils ont une place qu'aucun autre apôtre de notre siècle aura. Ils ont eu l'autorité par les Écritures que Dieu leur a donnée. Mais pourtant, ils n'étaient pas riches. Le Seigneur a dit que même les animaux, même les renards savent où dormir. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas un endroit où poser ma tête. Et à côté de ça, certains vont prêcher, il faut s'enrichir, il faut s'enrichir. À tel point que ceux qui ne s'enrichissent pas, ils ont le sentiment d'avoir échoué leur vie. Et ils tombent dans la dépression, ils tombent dans la désolation, parce que la prédication de s'enrichir a fait mouche dans sa vie, et ils se retrouvent perdus. Mais le Seigneur dit, mais maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Et en amassant de l'argent, ça devient comme une sécurité. C'est pourquoi je disais dernièrement que amasser pour ramasser, mettre dans les greniers pour le plaisir de se sentir en sécurité au cas où il y aurait un problème. Dieu dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. C'est la même chose, bien-aimé. C'est la même chose. On se souvient de cette parabole-là. Cet homme-là qui avait amassé dans les greniers et qui a dit, mon âme, maintenant tu vas te réjouir. Il a vu sa retraite en rose. Il s'est dit, à moi la vie maintenant. Mais une voix lui a dit, ta vie te sera reprise aujourd'hui. Je vais reprendre ta vie aujourd'hui. Tu pensais que c'est ça qui allait faire ton bonheur. Les réserves de ton grenier, tu pensais que c'est ça qui allait garantir ton avenir. Je vais reprendre ta vie afin que tu saches que ça ne vient pas de ces choses-là. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. L'argent est un problème et, comment dire, une véritable idole à notre époque aujourd'hui. Il y a des gens qui sont esclaves des gens, esclaves de ce que les gens peuvent dire, les gens peuvent raconter. C'est-à-dire que pour eux, la vie ne vaut que si on parle que du bien de lui. Tant qu'on parle du bien que de lui, il se sent bien, il se sent fort. Ça, c'est être esclave des humains. C'est être esclave des humains. Et comme je le dis souvent, bien-aimé, le plus important, c'est de savoir ce que Dieu pense de nous. Et ce que Dieu pense de nous, c'est écrit dans Jean 3,16. Il nous a tant aimés. Alors, puisque Dieu nous aime, pourquoi nous soucier de ce que les humains pensent de nous? Pourquoi nous reposer sur eux? Pourquoi respirer en fonction de ce qu'ils diront ou en fonction de ce qu'ils feront? Certains ne vivent pas, ils ne sortent pas, ils ne font rien dans la crainte, dans la peur que les gens disent, que les gens voient, que les gens parlent. Il y a certains qui ont même honte des bénédictions que Dieu leur donne. Ils veulent vivre comme des pauvres alors que Dieu les bénit. Mais pourquoi? Si Dieu te bénit, mais bénis le Seigneur avec ça. Glorifie le Seigneur avec ça. Pourquoi se cacher des bénédictions que Dieu nous donne? Loin de là, bien-aimé. On doit vivre en fonction de Dieu et non pas en fonction du regard des autres. Ça voudrait dire que ce sont ces gens-là, finalement, qui deviennent comme des dieux pour nous. Puisque c'est leur opinion qui compte. C'est le regard qu'ils ont sur notre vie qui compte. Donc, ils sont devenus notre Dieu. Et le Seigneur dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Être sous la malédiction. Le Seigneur le dit au verset 6. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Lorsqu'on dit que la terre est salée, c'est-à-dire que la terre est improductive. Une terre qui contient beaucoup de sel, ce n'est pas une terre qui va produire beaucoup de plantes, qui ne va pas produire de plantes. Et le Seigneur dit que celui qui est maudit, qui est sous la malédiction, il est comme ça. C'est-à-dire qu'on attire sur notre vie la sécheresse. La malédiction qui se trouve sur la personne qui ne loue pas le Seigneur, la personne sur laquelle nous nous reposons, c'est comme si cette malédiction descend aussi sur nous. Maintenant, peut-être que c'est aussi une personne qui, elle, n'a rien fait pour. Tu peux te reposer et t'appuyer sur un vrai chrétien. Peut-être que lui ne discerne pas que toi, tu le considères comme appui. Mais le Seigneur dit, dans ce cas-là, tu es semblable à celui qui ne verra pas le bonheur. C'est-à-dire, tu attires la sécheresse dans ta vie. La Bible nous dit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Qu'est-ce qui attire la gloire de Dieu ou la manifestation de la gloire de Dieu? C'est celui qui marche par la foi. Sans la foi, on ne peut pas attirer l'action du Seigneur. Quand le Seigneur marchait et que cette femme qui souffrait de perte de sang a touché le Seigneur, il dit, mais qui m'a touché? Les apôtres disent, mais Seigneur, il y a du monde qui te bouscule, il y a la foule qui est là, tu dis, qui m'a touché? Mais le Seigneur avait tout simplement discerné, il avait su qu'il y a une personne qui l'avait touché avec une attention différente. Et lorsque cette femme a été découverte, le Seigneur lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est ta foi qui t'a guérie. Donc c'est la foi qui a attiré la guérison dans sa vie. Le Seigneur est sensible à ça. Mais lorsque on se repente et qu'on s'appuie sur d'autres personnes, c'est comme si on n'avait pas la foi. Alors n'ayons pas la foi, on va attirer l'inverse. Non pas la gloire de Dieu, mais on va attirer la sécheresse. Et on sera comme ce que le Seigneur est en train de décrire. Il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Une terre salée et sans habitants. Un désert qui ne produit rien du tout. C'est ça, lorsque le Seigneur dit, cet homme-là est maudit, c'est-à-dire qu'il est sous la malédiction. Il ne verra rien de bon, parce que le Seigneur ne marche pas avec ceux qui ne comptent pas sur lui. La Bible nous dit que l'Éternel aime ceux qui le craignent. L'Éternel aime ceux qui espèrent en lui. C'est ça que Dieu aime. Lorsque le Seigneur voit une personne lui faire confiance, s'appuyer sur lui, s'attendre à lui, c'est à ça que Dieu prend plaisir. Et c'est dans ce genre de personnes-là que Dieu veut se glorifier. Parce qu'il a vu là que la personne avait une foi fervente, une foi agissante qui peut attirer l'action du Seigneur. Mais lorsqu'on se repose sur l'homme, c'est-à-dire sur l'homme et sur tout ce qui émane de l'homme, le Seigneur nous dit que nous sommes sous la malédiction. Et là, lorsqu'il condamne le peuple, parce que le peuple va vers des idoles qu'il s'est créé lui-même, qu'il a formé lui-même et qu'il regarde comme étant Dieu, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Nous prenons Ésaïe chapitre 31. Comprenons bien aimé le contexte. Rappelons-nous du contexte de Matthieu 24. Plus les choses vont avancer, plus le mal ne va faire que s'accroître. Et quand le mal s'accroît, l'homme a cette tentation-là d'aller chercher du secours partout où il peut. Il est en train de tâtonner, de toucher. Vous savez, une personne qui est en train de se noyer, elle va chercher à s'agripper à tout. Tu lui envoies même un bout de tissu dans la crainte, elle va attacher le bout de tissu comme si le tissu dans l'eau pourra le sauver. Et de peur qu'il y ait des gens autour de lui, il va même chercher à s'agripper sur les gens autour, quitte à les noyer. Et c'est arrivé qu'il y ait des gens comme ça qui se noient. Voulant le sauver, il t'attrape, il s'agrippe à toi et la personne meurt en même temps. Parce que dans cette détresse-là, on cherche à s'agripper à tout ce qu'on nous tend. Et dans les temps difficiles, c'est ce qui arrive malheureusement. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui des chrétiens faire des kilomètres et des kilomètres pour une guérison, des kilomètres et des kilomètres pour une prophétie. Il apprend que là-bas, ça prophétise. Allez, il y va. Or, il cherche le parler en langue. Ah, dans l'église où je suis, très peu parlent en langue. Là-bas, je vais. Imposition des mains à gauche, imposition des mains à droite. Donc, les gens cherchent à tout prix une solution par leurs propres efforts. Ils ne s'appuient plus sur Dieu. Ils n'ont plus la foi dans le Seigneur. Mais ils pensent que c'est un homme qui va leur donner le salut. Ils pensent que c'est un homme qui va leur donner des dons. Ils pensent que c'est un homme qui va les exaucer. Mais c'est Dieu qui exauce. C'est Dieu seul qui peut exaucer. L'homme peut te faire toutes les promesses qu'il veut. Il peut même mourir avant que tu vois cette promesse-là. Ésaïe chapitre 31. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude de chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble, ils périront. Malheur à celui qui descend en Égypte. Alors, dans la Bible, l'Égypte, quelquefois, dans le contexte, se réfère au monde. L'Égypte représente le monde. Et le Seigneur dit, en quelque sorte, malheur à celui qui va chercher du secours dans le monde. Dans le contexte dans lequel nous sommes, Israël est le peuple de Dieu. Israël est l'élu de Dieu. Et avant que le Seigneur officialise, en quelque sorte, sa relation personnelle avec Israël, en tant que peuple, lorsqu'ils sont en captivité, lorsqu'ils sont esclaves en Égypte, le Seigneur voit leur souffrance. Il voit que son peuple était aussi habitué à vivre selon les mœurs qui se faisaient en Égypte, selon la coutume des Égyptiens. Ils avaient adopté certaines choses qui appartenaient à l'Égypte et pour lesquelles Dieu n'était pas d'accord. Alors le Seigneur volontairement, lorsqu'il envoie Moïse, dès le premier instant, Dieu pouvait prendre des premiers-nés pour éviter que Pharaon résiste. Mais volontairement, le Seigneur a dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Donc le Seigneur a fait en sorte que tout ce qui représentait des dieux, tout ce qui représentait une force pour l'Égypte, que le Seigneur le défie devant son peuple. Tout ce que le Seigneur a fait, c'était pour montrer à son peuple, regarde tout ce que l'Égypte considère comme Dieu. Je vais défier chaque dieu pour te montrer que c'est moi qui suis le Dieu parmi tous les dieux. Jusqu'à ce que le Seigneur va prendre les premiers-nés fils des Égyptiens. Donc le Seigneur va opérer une grande délivrance. Et c'est là où véritablement l'histoire va commencer avec Israël. Et le Seigneur, après avoir délivré son peuple, va lui donner toutes sortes de recommandations par la loi. Et le plus grand commandement que le Seigneur va même citer dans les évangiles, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et dans Exode 20, lorsque le Seigneur donne des commandements, il dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Donc comment, moi qui ai vaincu tous les dieux égyptiens, les dieux sur lesquels les Égyptiens, l'armée égyptienne qui était considérée comme la plus puissante à l'époque, Dieu dit, moi je les ai vaincus et c'est auprès d'eux que vous allez chercher du secours. Bien-aimés, vous pensez, comment le Seigneur peut voir cette chose-là? C'est comme si, aujourd'hui, quelqu'un dans la rue se fait agresser. Se faisant agresser, il va chercher un monsieur. Ah, je me suis fait agresser, venez m'aider. Mais le monsieur que tu vas chercher là, lui-même, le même monsieur aussi, on l'a agressé. Donc, mais où est cette logique? Lui-même, le monsieur qui t'a agressé, il s'est fait agresser, vous vous êtes fait agresser par la même personne. Et c'est lui que tu appelles pour qu'il aille te défendre de l'autre. On voit clairement que c'est insensé. C'est totalement insensé. C'est comme si aujourd'hui, les États-Unis, qui a terrassé, l'Irak, qui a terrassé l'Irak, demain tu es dans des problèmes, tu vas voir les Irakiens, venez m'aider pour combattre les Américains. Ah, mais eux, ils nous ont déjà tapés. Tu veux que nous on aille combattre? C'est illogique. Donc Dieu dit, moi ceux que j'ai combattus, j'ai défié tous leurs dieux, je les ai vaincus, je vous ai délivrés de l'Égypte et vous voulez retourner vers eux pour chercher du secours. Et Dieu est fâché à cause de ça. Il dit, mais puisque c'est ainsi, vous et votre protecteur, parce que j'ai parlé, vous périrez. Vous pensez que l'Égyptien est Dieu. Il dit clairement au verset 3, l'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera et tous ensemble ils périront. C'est-à-dire que là où tu vas chercher du secours, non seulement ça ne marchera pas, mais tu risques même de mourir avec lui. Tu vas voir tel guérisseur, j'ai tel problème au poumon. Non seulement lui-même le guérisseur va mourir d'une maladie des poumons, et toi aussi tu mourras des poumons. Comme ça, tu comprendras que la solution ne se trouvait pas là-bas. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Donc, se reposer sur les humains et sur le système humain, le Seigneur fera en sorte qu'il y ait la faillite là-bas pour que tu saches que là où tu cherchais du secours, ça ne tient pas. Et que si tu ne te repens pas, tu finiras comme ton protecteur et aussi mort. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. Donc, attention, ce que nous regardons comme une protection, ce que nous regardons comme une route de secours, parce que Dieu nous aime, Dieu va aussi défier cela pour montrer que c'est lui-même qui est Dieu. Je disais tout à l'heure que Dieu n'était pas obligé d'accomplir tous ces fléaux-là en Égypte. Dès le premier fléau, il pouvait prendre les premiers-nés, comme ça les Égyptiens allaient capituler d'un coup et on n'en parlait plus. Le Seigneur a laissé durer les choses, mais c'est parce qu'il voulait se révéler d'une manière particulière à son peuple. Il voulait faire comprendre à son peuple que c'est moi qui suis Dieu. Reposez-vous sur moi. Ne vous reposez pas sur ces forces qui sont incertaines, qui sont aujourd'hui, mais demain qui ne seront plus. C'est ça que le Seigneur nous dit. Les choses vont devenir difficiles, certes. Les choses vont devenir compliquées, certes. mais n'oubliez pas qui je suis. Et souvent, dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur reprend son peuple, il dit, Israël, souviens-toi, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir de l'Égypte. Il lui rappelle toujours ça. Je suis le Dieu qui t'ai fait sortir de l'Égypte. Dieu pourrait simplement dire, Israël, je suis ton Dieu, c'est moi l'Éternel. Non, il dit, je suis le Dieu qui t'a fait sortir de la maison de servitude. Il lui rappelle ça, c'est une manière de dire, rappelle-toi ce que tu étais et souviens-toi de ce que j'ai accompli. Je n'ai pas changé. Donc nous aussi, le Dieu que nous avons choisi, il n'a pas changé. Les temps vont devenir difficiles. La tentation de se confier dans les médicaments, la tentation de se confier, de s'appuyer sur les médecins, risque d'être grande. Mais souvenons-nous de qui est notre Dieu. Souvenons-nous de qui est notre Seigneur. L'homme passera un jour. L'homme finira un jour. Le Seigneur dit, l'Égyptien, vers qui tu vas? Mais il n'est pas Dieu. Ça veut tout dire. Ça veut dire que n'étant pas Dieu, il ne pourra pas te donner réellement ce que tu as besoin. Il ne pourra pas te donner ce que tu as besoin. Le monde, faire un retour en arrière en se disant, ah, autrefois ça avait marché. C'est comme ça que certains font. Dans les méthodes, en se reportant sur les traditions, en se reportant sur la culture. Ah, mais dans l'éducation des enfants, mais pour nous ça avait marché comme ça. Donc je reviens dans les traditions que mes grands-parents, que mes ancêtres idolâtrent, qu'ils élèvent. On est de telle ethnie, on est de telle région, nous sommes de telle, et on ramène des choses passées. Mais Dieu dit, mais ces choses passées-là, moi je les ai vaincues. Je vous ai montré que ça ne tenait pas. Vous voulez repartir dans les vieilles choses pour essayer de sauver votre vie aujourd'hui, pour essayer de changer votre vie aujourd'hui. Le Seigneur dit, attention, ces choses-là ne sont pas Dieu. Il y a un seul Dieu, c'est celui qui est vivant. Il y a un seul Dieu, c'est celui qui nous a rachetés. Et c'est en ce Dieu-là que nous devons nous confier. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Nous l'avons chanté tout à l'heure et c'est écrit aussi dans les psaumes. David l'a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? La Bible nous dit qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre comme Moïse. Moïse était un homme fort patient. Moïse était vraiment un ami intime de Dieu. À tel point que lorsqu'il est mort, la Bible nous dit qu'après Moïse, en Israël, il n'y a plus eu un prophète avec qui Dieu parlait face à face. Moïse connaissait Dieu. Est-ce que Moïse n'a pas péché? Pourquoi n'est-il pas entré dans la terre promise? Parce qu'à un moment donné, il a péché. Par faiblesse, par fatigue, il a mal fait. Abraham, l'homme qu'on appelle le père de la foi, qui a décidé de faire confiance au Seigneur, de tout abandonner pour aller là où Dieu l'enverrait. N'a-t-il pas péché? Pour sauver sa vie, il a menti sur l'identité de sa femme parce qu'il a eu peur de mourir. David, selon l'homme, selon le cœur de Dieu, n'a-t-il pas péché? Plus d'une fois. Pourtant, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Pierre, à qui le Seigneur va donner la responsabilité de l'Église, de poser le fondement de l'Église. N'a-t-il pas mal fait? Il a mal fait en reniant le Seigneur. Et même après, lorsque l'apôtre Paul l'a repris, parce qu'il disait que Pierre a été hypocrite, il faisait semblant, lorsque les païens étaient là, il faisait d'une certaine manière, et quand les juifs étaient là d'une autre manière, on l'a repris. Tous ces gens-là étaient des gens reconnus devant le Seigneur. Des hommes intègres devant Dieu. Même eux, ils ont failli. Alors, bien-aimés, il y a aujourd'hui une réalité, c'est que c'est difficile de trouver des gens comme eux. Et ce sont sur ces gens-là que toi, tu veux te reposer. Même ceux qui ont été élevés par le Seigneur, ils ont failli. L'homme est faible. L'homme n'est pas parfait. Reposons-nous sur le Seigneur. Comptons sur le Seigneur. Les choses peuvent être difficiles quelquefois, mais la solution viendra de Dieu. Maintenant, si le Seigneur, dans sa souveraineté, nous oriente vers telle ou telle personne, demande le soutien de la prière, il n'y a pas de problème. Mais que dans notre cœur, nous soyons convaincus que la délivrance viendra de Dieu. La délivrance viendra de Dieu. Il y a des personnes qui fouillent, ils demandent là, on n'a pas pu l'aider, il appelle là-bas, on n'a pas pu l'aider, il appelle là-bas. Donc là, ça montre que son souci, ce n'est plus Dieu. son soutien, ce n'est plus Dieu. Et à un moment donné, il faut se dire, bon, peut-être que le Seigneur veut que je reste comme ça, lui-même va se glorifier. Il y a des moments donnés, il faut aussi, en quelque sorte, éprouver le Seigneur. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. David pouvait tuer Shimei lorsque David a fui devant son fils. Il pouvait tuer Shimei, cet homme qui l'insultait, qui lui lançait de la poussière. Il pouvait le tuer. Les soldats ont dit, mais laisse-nous tuer ce chien-là. David a dit, non, laissez-le. Si il le fait, c'est que Dieu lui a permis. Peut-être que comme ça, Dieu aura pitié de moi et il me ramènera à Jérusalem. David a accepté d'aller jusqu'au bout. Il a accepté de se dire, non, je ne vais rien faire. Je vais obliger Dieu à se manifester. Si réellement le Seigneur veut que je m'en sorte de cette situation-là, moi je ne ferai rien. Il a fait la même chose avec Saül. Les soldats sont là, mais Dieu te l'a livré, tue-le maintenant. Il est livré entre tes mains. David a dit, je ne porterai pas main à loin de Dieu. Si Dieu veut me délivrer, Dieu n'a qu'à le faire lui-même. Il y a des moments bien aimés, il faut qu'on accepte d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur, de voir jusqu'où le Seigneur veut nous laisser pour voir comment il se manifestera. Lorsque le mal va s'accroître, lorsque l'épreuve sera grande, n'oublions pas le Seigneur. La solution bien aimée ne viendra pas d'un homme. Et le Seigneur peut aller très loin. Il peut aller très très loin. C'est-à-dire que la solution qui est pour toi solution, le Seigneur peut l'enlever même d'une façon définitive. Pour que tu comprennes clairement que ce que tu croyais être ta solution, Dieu l'a vaincu. Le Seigneur dit, je suis un Dieu jaloux. C'est-à-dire que ce qui lui appartient, Dieu le conserve jalousement. Dieu le conserve jalousement. Donc si aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait ton appui à toi, Dieu par jalousie peut te le ravir tout simplement. Donc si aujourd'hui ton mari c'est ton idole, attention, Dieu peut le reprendre aussi. Si aujourd'hui ta femme c'est ton idole, c'est ton appui, sans elle tu ne peux pas vivre, tu ne peux rien faire. Il y a des hommes, si la femme n'est pas là, il ne peut rien faire. Ça dit même manger, il ne peut pas. Il passe son temps à l'acheter des kebabs, à l'acheter dehors, donc il ne peut pas s'en sortir. Si à tel point, la femme est incontournable dans ta vie, fais attention. Le Seigneur peut l'envoyer un séjour quelque part lointain, là où tu vas devoir te débrouiller seul. Comprenons bien aimé ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit négliger nos femmes ou bien négliger les maris, loin de là. Je suis simplement en train de parler de la question de s'appuyer. Si pour elle, si pour lui, si l'un ou l'autre est notre secours, notre appui, c'est que nous sommes en train de nous éloigner du Seigneur. Et nous clôturons en revenant à Jérémie 17. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'homme et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Voilà le contraste entre celui qui se confie dans l'homme et celui qui se confie en Dieu. Le Seigneur a délivré son peuple de l'Égypte parce qu'il était esclave. Et le Seigneur considère alors que lorsque nous nous confions dans l'homme, c'est que nous sommes tout simplement comme des esclaves. Et Jésus-Christ est mort pour nous libérer de toute forme d'esclavage. Alors par amour, le Seigneur s'est levé, il a montré la voie par son Fils. Il a montré son amour par le sacrifice de son Fils, c'est-à-dire qu'il a donné les preuves suffisantes pour qu'on puisse lui faire confiance. Lorsque le Seigneur est venu sur terre, il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est mis au service de ses disciples. Et ce n'est qu'après là où il leur a dit, maintenant je vous envoie, aller. Il s'est d'abord sacrifié comme garantie de ce qu'il était véritablement, de l'amour qu'il avait pour eux, et ensuite il leur a demandé. Dieu a sorti son peuple de l'Égypte. Il a combattu pour eux tous les faux dieux. Il les a délivrés de l'esclavage. Et après être délivrés, il leur a donné le commandement. Il ne leur a pas donné avant. Et le Seigneur a fait la même chose avec nous. Suivre le Seigneur, c'est une question de choix. Et comme je disais, le contraste est clair entre se confier dans l'homme et se confier dans le Seigneur. Tout est pour nous finalement. Tout est bon pour nous en nous confiant dans le Seigneur, en acceptant les moyens que Dieu utilisera pour nous bénir, mais que notre cœur soit vraiment fondé sur l'Éternel. C'est ce qui fait quelquefois, bien aimé, que peut-être il y a certaines choses que nous attendons que nous n'avons pas encore vues, parce que le Seigneur voit qu'en réalité l'espérance n'est pas sur lui, l'espérance est sur d'autres. Tu mets peut-être plus ta foi en te disant que si on m'impose les mains, si on prie, c'est comme ça que mon problème va être résolu. Alors ça traîne, parce que Dieu voit que tu vas donner la gloire à un homme, mais pas à lui. Notre regard doit être tourné vers le Seigneur. Notre cœur doit être fondé sur le Seigneur afin de bénéficier de tout ce qu'il a en réserve pour nous. Le Seigneur a beaucoup à nous donner. Nous sommes dans les temps difficiles. Le mal ne va faire que s'accroître et la tentation d'aller chercher du secours ça et là sera aussi grande. Mais le Seigneur nous a prévenus, voilà, afin que nous puissions nous attacher à lui. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Amen. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur de gloire, pour ta parole, Seigneur de gloire, et pour ta fidélité. Seigneur, la Bible déclare que tu donnes la nourriture au temps convenable, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, saisir ce que tu nous as rappelé encore aujourd'hui, Seigneur. Parce qu'en réalité, ce ne sont que des rappels. Mais nous savons, Seigneur de gloire, que tu parles au moment où il le faut, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons recevoir ta parole avec humilité. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, nous sonder nous-mêmes, Seigneur Dieu de gloire, afin de restaurer, Seigneur de gloire, ce qui doit être restauré. Afin de renoncer à toutes les choses auxquelles nous devons renoncer, Seigneur de gloire. Et nous voulons uniquement nous appuyer sur toi. Seigneur, nous venons nous humilier et te demander pardon. Te demander pardon, Seigneur de gloire, si nous nous sommes appuyés sur l'argent, si nous nous sommes appuyés sur notre travail, si nous nous sommes appuyés, Seigneur Dieu de gloire, sur la médecine. Nous te demandons pardon pour cela, Seigneur. Et nous prions, Seigneur de gloire, afin que tu purifies nos cœurs, Seigneur de gloire, que tu mettes en nous des motivations saines, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous voulons avoir les regards fixés vers toi, quels que soient les moyens que tu utilises, Seigneur de gloire, pour agir, que ce soit par la médecine, que ce soit par le travail. Seigneur, nous ne voulons pas oublier que tout vient de toi et que toutes ces choses-là ne sont que des canaux, Seigneur de gloire, que tu utilises pour nous bénir, Seigneur. Nous voulons que tu sois notre priorité, que tu sois notre chef, que tu sois notre roi, Seigneur. Nous voulons vivre par toi. Nous voulons dépendre de toi, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Restaure-nous, Seigneur de gloire. Ô Seigneur, nous ne voulons pas retourner en arrière, retourner aux anciennes pratiques, à l'ancienne vie, Seigneur de gloire, pour trouver des solutions, pour résoudre les problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toi que nous avons choisi comme Dieu, Seigneur, et nous croyons que les solutions se trouvent en toi et en toi seul, dans le nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur de gloire, si nous avons été idolâtres d'un homme, Seigneur, idolâtres d'un serviteur, idolâtres de l'argent. Seigneur Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, nous te demandons pardon, Seigneur, et nous prions, Seigneur de gloire, que tu mettes en nous, Seigneur de gloire, de véritables sentiments, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons nous incliner devant toi. Nous venons nous humilier devant toi, Seigneur, parce que nous croyons que tu es bon. Seigneur, nous croyons que tu es fidèle. Toi qui es notre Dieu, qui règne à jamais, au siècle des siècles, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons, Seigneur de gloire, que nous t'aimons. Malgré nos faiblesses, malgré nos défauts, Seigneur, nous t'aimons, mais nous voulons t'aimer plus, Seigneur. Nous voulons t'aimer, Seigneur de gloire, comme tu devrais être aimé, Seigneur. C'est toi qui es notre papa. Seigneur, tu prends soin de nous, Seigneur. Chaque jour, tu prends soin de nous. Et nous sommes des témoins vivants de ta bonté. Nous sommes des témoins vivants de ta fidélité, Seigneur. Et nous ne voulons pas l'oublier. Seigneur, aide-nous à t'aimer véritablement. Apprends-nous, Seigneur de gloire, à t'aimer, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia.